Sam travaille, la chronique où le travail se raconte et se comprend.
Et si votre boulot racontait l'histoire d'un monde qui change ? Bienvenue dans la chronique de Sam Travaille, un espace où les récits des travailleurs et des travailleuses deviennent des miroirs de nos mutations collectives. Pendant 15 minutes, une fois par mois, on entre dans le vécu du travail. Je vous livre des récits que j'ai collectés, un peu de théorie pour éclairer tout ça, et je vous propose d'écouter, de comprendre et peut-être parfois de vous reconnaître dans ces histoires où le quotidien du travail croise les grandes transformations de notre époque. Dans cette chronique, je vais vous présenter Mélanie, une jeune retraitée qui a souhaité me raconter un épisode de sa vie professionnelle qui a été très éprouvant pour elle. Il y a 10 ans, Mélanie travaillait dans un salon de coiffure avec 2 autres personnes. Une jeune femme a racheté ce salon et décidé de le moderniser, de rajeunir sa clientèle ainsi que son personnel. Ses 2 collègues ont rapidement décidé de partir. On l'écoute. Elles sont parties toutes les 2 parce qu'elles ont été humiliées par cette jeune femme qui a repris le salon et qui voulait tout changer, faire venir un coiffeur de Paris qui soi-disant coifferait très bien. Enfin bon, on sentait qu'il fallait partir. Moi, je suis restée. Une fois, j'étais obligée de m'arrêter 2 jours parce que j'étais malade. Eh ben, ça a été un peu compliqué pour qu'elle me redise bonjour, ma patronne, parce que j'avais été arrêtée 2 jours. C'était l'horreur. Voilà, ça a commencé un peu comme ça. Elle se mettait, en position dominante à me dire « ça va pas, Mélanie ?» Et puis des fois, elle me disait « oh, vous savez, je vous aime beaucoup. » Elle me prenait avec douceur. Mais j'avais l'impression qu'on parlait sur moi par derrière. Je me disais « oh, tu te racontes des histoires. » Un jour, il y a une représentante des produits de coiffure qu'on faisait que j'aimais beaucoup. Elle arrive et puis 5 minutes après, il rentre une jeune femme que j'avais coiffée 1 semaine avant. J'avais un peu égalisé ses cheveux longs. Elle me regarde et elle fait un scandale, comme quoi je lui avais très mal coupé les cheveux, que je l'avais loupé. Et là, moi, je me suis retrouvée avec cette représentante, avec une cliente que j'étais en train de coiffer, et cette femme qui faisait un scandale, et ma patronne qui me regardait et qui avait l'air de me dire « Mais enfin, Mélanie, vous avez vu ce que vous avez fait ?» Je suis rentrée chez moi et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et je me disais « Mais c'est pas possible qu'on m'humilie à ce point-là » Je demande à Mélanie comment ça se passait dans son quotidien. C'était une succession d'émotions fortes. Quand ma patronne était en face de moi et qu'elle me passait de la pommade, j'avais l'air d'être quelqu'un de super bien, que tout allait bien. En fin de compte, il m'a fallu du temps pour m'apercevoir qu'elle me manipulait. Quand je rentrais chez moi, j'étais pas bien. Je me mettais à pleurer toute seule ou je partais dans la forêt. Je me mettais à crier, je me mettais à hurler. Je pleurais parce que... Bon, enfin, c'est comme ça. C'est des sales moments. On perd ses moyens complètement. Les clientes, elles me disaient « Mais ça va, Mélanie ?» Mais avant, elles me disaient jamais ça. Ben non, ça allait pas. La Mélanie, elle souriait plus, alors que moi, j'aime sourire et je suis plutôt accueillante. Ça avait transformé ma manière d'être. Après, j'avais même des doutes sur moi, sur comment je faisais mon travail, alors que je savais le faire, ce travail. Et puis, les nuits étaient différentes. Il y a tout qui change. Je dormais moins bien, j'étais beaucoup plus angoissée. Mes clientes me reconnaissaient même plus parce que j'avais plus cette joie de vivre. Le sourire avait disparu, j'avais maigri, j'avais moins faim, j'ai perdu 5 kilos en 1 an. Ça commençait à être compliqué. J'avais plus le goût à la vie comme j'avais avant et ça, faut du temps pour que ça revienne. Et puis, il a fallu qu'on m'annonce ce cancer. Je devais aller passer une mammographie de contrôle. Il s'avère qu'on a trouvé une tumeur et que je devais aller me faire opérer. J'ai dit à ma patronne, je vais être absente et sûrement pour longtemps. Je ne sais pas quand je pourrai revenir parce que je suis malade. Je lui ai annoncé que j'avais un cancer du sein. Alors là, elle n'a pas su quoi dire. J'ai même vu qu'elle avait les larmes aux yeux. Puis ça s'est arrêté là, donc je suis partie me faire soigner. Mélanie finit par aller voir l'inspection du travail et un avocat, poussée par son compagnon et son ancienne collègue. Mais elle me dit « Pour moi, ce n'était pas le moment de porter plainte, parce que j'avais autre chose à faire. J'allais me faire opérer, me faire soigner. Je ne me sentais pas capable du tout de me retrouver à traiter cette affaire. Il fallait que je m'en détache, au contraire. » Je demande à Mélanie si elle a repris son poste après ses soins. Elle me dit que non, elle n'a jamais repris, elle est partie. Je lui demande alors si elle a démissionné ou si elle a été licenciée. Eh bien ça, je n'arrive pas à m'en rappeler. Je crois que j'ai été licenciée. Je crois que j'ai été licenciée, mais j'arrive pas à me rappeler. C'est le trou noir. Nous parlons des conséquences de cette situation sur la suite de son parcours professionnel. Après, il a fallu beaucoup de temps pour que je remette un pied dans le travail, parce que je voulais plus avoir personne, avoir qui que ce soit sur moi qui me dise « tu fais ci, tu fais ça ». C'était l'horreur. Déjà, je me suis dit « c'est terminé la coiffure ». Après, quand j'ai voulu faire une reconversion professionnelle, j'avais peur. La peur. Je voulais travailler, je voulais y aller, j'avais plein de motivation, mais c'était la peur de me dire sur qui je vais tomber. Ça te reste à vie, ça, c'est horrible. Des fois, je me dis, mais si c'était arrivé à quelqu'un de jeune, comment on fait pour retrouver du travail? Comment on fait pour y retourner? J'avais des freins. Il ne s'agissait pas seulement de donner son CV et de se présenter. Je m'étais dit, si je retrouve un travail, je vais avoir cette peur. Et puis après, j'ai fini par avancer et me dire que j'avais réussi à faire face et que maintenant, j'allais pouvoir oser parler. Parce que rien dire, ça fait rien avancer. Mais il faut faire du chemin, il faut du temps aussi pour arriver à oublier tout ça. Mélanie va finir par quitter sa ville d'origine et venir s'installer en Ardèche et changer de profession jusqu'à sa retraite. Elle continue à se demander si son ancienne patronne se rendait compte de ce qu'elle lui faisait vivre. Quand j'ai rencontré Mélanie, elle m'a dit qu'elle voulait me parler d'une situation de harcèlement moral. C'est le terme qu'elle a posé sur ce qu'elle a vécu. D'un point de vue juridique, la définition du harcèlement moral au travail, c'est la suivante. Ce sont des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Ça peut prendre différentes formes, souvent subtiles et difficiles à identifier. Parmi les comportements les plus observés, on trouve l'isolement de la victime, mise à l'écart des réunions, privation d'informations, exclusion de projets, la dévalorisation professionnelle, critiques injustifiées et répétées, remise en question systématique des compétences, les attaques personnelles, moqueries, humiliations publiques, rumeurs malveillantes, intrusions dans la vie privée, et le contrôle excessif, surveillance constante, demande de justification incessante. Le harcèlement moral, c'est pas forcément des actes flagrants ou violents. Ça peut aussi être des micro-agressions qui, prises individuellement, peuvent sembler anodines, mais dont la répétition crée un environnement de travail toxique. La jurisprudence a joué un rôle très important dans la progression de cette notion. Elle a notamment précisé que l'intention de nuire n'est pas nécessaire pour caractériser le harcèlement moral, c'est-à-dire qu'un supérieur hiérarchique peut être reconnu coupable de harcèlement moral même s'il n'avait pas l'intention de nuire aux salariés. Je vous propose maintenant de poser un regard sociologique sur cette notion de harcèlement moral. Laila Salah Eddine a écrit sa thèse de doctorat sur ce sujet, et une partie très intéressante de cette thèse se nomme « Ce que le harcèlement moral ne permet pas de dire et de voir ». Elle explique la critique adressée par certains auteurs à la notion de harcèlement moral qui conduirait à énoncer des problèmes sociaux en langage psychologique et ainsi masquer les origines profondes de la souffrance au travail. Pour Vincent de Goljac, par exemple, la loi contre le harcèlement moral met en cause des agissements pervers qui existent certainement et qu'il convient de condamner, mais, ce faisant, elle occulte les causes profondes du harcèlement. Elle contribue à individualiser le problème. La notion de harcèlement moral, ajoute l'auteur, tend à focaliser le problème sur le comportement de personnes et fait ainsi l'économie d'un questionnement de la gestion de l'entreprise et plus généralement des processus qui engendrent les violences au travail. Chaque travailleur est renvoyé à lui-même. Le stress, l'anxiété, le burn-out sont traités au niveau individuel dans leurs effets psychiques ou psychosomatiques. L'entreprise externalise ainsi les conséquences de la violence des relations de travail qu'elle engendre. Jean-Pierre Durand défend le même point de vue. Pour ce sociologue, le stress ou le mal-être ont pour origine une organisation sociale et non pas un individu, même si ce peut être un individu incarnant l'institution qui multiplie les agissements harcelants. Pour la psychologue Dominique L'Huillier, l'idéologie de la modernité tend à ramener les situations sociales vers des déterminants psychologiques. Et l'idéologie libérale, en produisant des valeurs telles que l'individualisation, l'autonomie, consolide l'idée que c'est dans l'individu que se trouve la clé de ses réussites comme de ses échecs. La question que posent ces auteurs est donc : le harcèlement moral empêche-t-il de penser les contextes organisationnels et socio-économiques qui sont la source des violences en milieu de travail ? Lorsqu'une personne se plaint de son chef, un pervers narcissique, elle ne dénonce pas la restructuration et les nouvelles méthodes de management qui la pressurent. Lorsqu'une autre se plaint de la méchanceté de la surveillante générale et qu'elle décide d'aller en justice pour harcèlement moral, elle ne lutte pas contre les conditions de travail qui l'ont amenée à un épuisement professionnel, mais contre des bourreaux et des persécuteurs. Des responsables syndicaux déclarent côtoyer la souffrance au travail plus souvent que le harcèlement moral, mais ils disent en même temps que c'est plus facile de soutenir un salarié pour harcèlement moral. Ce paradoxe est dû à la difficulté de trouver un coupable clairement identifiable en ce qui concerne la souffrance au travail. Cette violence est sans adversaire. Donc même si on peut reprocher à la loi de faire écran, elle donne une arme aux salariés pour se défendre. Merci à Mélanie pour son témoignage. Elle nous a permis de commencer à parler de la notion de harcèlement moral. On verra dans la prochaine chronique comment les tribunaux ont continué à faire évoluer cette notion et même dépasser les reproches évoqués, à savoir le fait de se centrer sur des questions d'individus faisant ainsi écran aux réalités du travail, puisque les juges ont reconnu la notion de harcèlement institutionnel. Si vous aussi vous avez envie de confier à l'association SAM Travail un épisode de votre vécu professionnel, qu'il soit agréable ou difficile, écrivez-nous à contact@frequence7.net. On se retrouve dans un mois pour une nouvelle chronique. Et d'ici là, ne vous laissez pas trop travailler par le travail.